This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous évoquons un article de notre partenaire Rue 89 Bordeaux. Il aborde le sujet des squats et de la façon dont il est traité par la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle « Expulsion imminente pour la zone libre, les soutiens se mobilisent ». Et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Simon Barthélémy.
Bonjour.
Simon, vous êtes journaliste indépendant, cofondateur de Rue 89 Bordeaux. Nous allons dans cet épisode évoquer le sujet précisément du squat de la zone libre à ce nom qui est en pleine actualité. Mais plus globalement, nous allons nous intéresser au traitement qui est réservé aux migrants dans la région. Et d'abord donc ce squat de la zone libre, vous pouvez nous en parler, à quoi ressemble-t-il, combien de personnes y vivent et qui sont-elles ces personnes?
Alors la zone libre est à ce nom, elle occupe une ancienne résidence pour personnes âgées de 80 logements, résidence Paul Ramadier qui est désaffectée depuis quelques années et qui donc depuis le mois de novembre 2019, donc presque un an, est occupé par plusieurs centaines de familles, 300 personnes grosso modo, dont une centaine d'enfants, pour la plupart d'origines étrangères, pour certaines en situation irrégulière, pour d'autres en situation régulière, soit demandeurs d'asile, soit même ayant des papiers, et qui ont tous donc été à la rue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ont trouvé là un point d'appui important, puisqu'en novembre 2019, il faut rappeler qu'on est à la sortie d'une grosse vague d'expulsion de plusieurs squats sur la métropole bordelaise. Il y avait aussi des dizaines de personnes qui vivaient dans un campement provisoire au bord du lac de Bordeaux. Et donc l'ouverture, entre guillemets, de ce lieu a été un genre de bouée de sauvetage pour beaucoup de personnes.
Simon, vous l'avez dit, dans ces squats, il y a des enfants. Dans quelles conditions sont-ils accueillis? Est-ce qu'ils sont scolarisés, par exemple?
Alors la plupart sont scolarisés, des informations dont je dispose en tout cas. Beaucoup ne sont pas scolarisés à ce nom même, puisque étant arrivés lors de l'hiver 2019, certains étaient scolarisés ailleurs, et les parents de ces enfants ont décidé de ne pas les déscolariser pour pas les gêner outre mesure et les désociabiliser. Donc il y en a beaucoup qui sont obligés de faire des déplacements quotidiens très importants. Il y en a qui sont par exemple scolarisés à Aisine et qui font plus d'une heure et demie de tram pour aller à l'école, une heure et demie pour en revenir, d'autres sont scolarisés à Mérignac.
Nous sommes donc à ce nom, vous l'avez dit, en très proche banlieue de Bordeaux. Les lieux appartiennent au bailleur social Enéal, ancien Logévie. Enéal s'était engagé à ne pas déloger ses squatteurs sans solution avant de faire appel à la force publique en juillet dernier. C'est bien ça, Simon ?
Oui, c'est ce qu'ils avaient déclaré à Rue 89 Bordeaux en juin. Un mois après, selon donc ce que nous a indiqué la société, donc à la fin du mois de juillet, ils ont à ce moment-là demandé le recours à la force publique pour l'expulsion, expulsion qui avait été autorisée par le tribunal de Bordeaux en janvier. Bon, ils nous indiquaient ne pas avoir voulu précipiter les choses dans l'attente d'une enquête sociale qui doit être réalisée avant toute expulsion par les autorités, donc par la préfecture, et ils espéraient que cette enquête puisse être réalisée pour pouvoir reloger les personnes qui auraient droit à un toit ou qui seraient prioritaires, étant notamment les familles. Cette enquête, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas été faite, qu'on est toujours dans l'attente de son démarrage. Alors la préfecture a annoncé, suite à nos derniers articles réalisés sur le sujet, qu'elle allait bientôt démarrer, durer plusieurs jours, donc ce qui offre a priori un répit aux familles de quelques semaines.
Ain't got no faith. Au sujet de l'emploi de la force, quels sont les arguments mis en avant par Enéal pour justifier ce revirement ?
C'est principalement une question de sécurité, de risque d'incendie, de maladie, etc., ou de violence, et derrière donc de responsabilité pénale pour le propriétaire du lieu. Donc c'est ça qui motive essentiellement Enéal. Il y a derrière aussi un projet immobilier, mais qui est assez loin, d'après les informations qu'on a, d'être tout à fait abouti. Donc oui, l'argument principal, c'est celui-là, c'est la peur que, on sait souvent que dans les squats, quand l'hiver arrive, les gens se chauffent un peu comme ils peuvent, avec des réchauds à gaz, des choses comme ça, et ça pourrait déclencher un incendie. Les associations qui soutiennent les squatteurs et les habitants affirment, eux, qu'il y a quand même un certain contrôle qui est assuré, notamment de l'électricité. Ils estiment que bon, le risque de court-circuit et donc d'incendie qui pourrait être provoqué par le chauffage électrique est assez minime, puisqu'ils se sont assurés de, je dirais pas de mise en conformité, hein, puisque on est dans une occupation illégale, mais qu'en tout cas, les conditions soient suffisamment sécures.
Pour protester contre le recours possible à la force, il y a eu une très forte mobilisation des habitantes et des habitants, de personnalités. Il y a eu notamment un concert et des expositions données au Rocher de Palmer, toujours à ce nom, cette salle d'exposition et de spectacle. Et il semble donc que cette mobilisation soit en train de porter ses fruits. C'est ce que vous nous dites, a priori, il y aura un répit pour la zone libre.
Oui, alors il y a eu effectivement une mobilisation importante le week-end dernier avec des AG à la zone libre et au Rocher de Palmer, donc la salle de spectacle de ce nom qui soutient, il faut le saluer, ce mouvement. Donc il y a des concerts avec une entrée payante pour pouvoir voilà, financer des choses pour les habitants. Et lundi, il y a eu une action menée par ces associations. Bon, on peut en citer quelques-unes, hein. Il y a le réseau Éducation Sans Frontières, Médecins du Monde, hein, qui est un peu inquiet des conséquences que pourrait avoir en période de pandémie et d'arrivée des grands froids, la mise à la rue de centaines de personnes. Et donc ce lundi, petite centaine, enfin plusieurs dizaines de manifestants ont occupé les locaux donc de l'ex-logévide d'Enéal, qui est un bailleur social dédié au logement des personnes âgées, qui est une filiale d'Action Logement, donc une grande structure nationale chargée de la collecte du 1% patronal qui doit financer le logement social. Et donc pour réclamer à Enéal, ex-logévide, qu'elle suspende sa volonté de faire expulser la zone libre. L'occupation a duré quelques heures, au cours de laquelle ils n'ont pas pu s'entretenir directement avec un responsable qui n'était pas sur place ce jour-là. L'entretien a pu se dérouler le lendemain, et à cette occasion, donc, le responsable d'Enéal leur a réitéré ce qu'il nous a déclaré donc le lundi, et ce qu'il avait déclaré aux occupants des locaux, qu'il ne reviendrait pas en arrière, qu'il maintiendrait son expulsion. En revanche, il a fait un pas en disant qu'il était prêt à instaurer une convention d'occupation temporaire des lieux le temps que l'enquête sociale de la préfecture puisse se réaliser et qu'il y ait effectivement quand même plusieurs perspectives qui s'ouvrent pour le relogement des personnes.
La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs.
Alors, au-delà de la situation de la zone libre, qui pourrait donc, on va rester prudent, mais avoir obtenu un sursis, c'est le sujet des squats de façon générale que vous abordez régulièrement dans rue 89 Bordeaux. Depuis son arrivée au printemps 2019, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouchot, multiplie leur démantèlement. Rappelons qu'elle avait auparavant été en poste dans le Pas-de-Calais et donc chargée à ce titre de la question de ce qu'on appelle la jungle de Calais. Son mantra, c'est de dire qu'elle agit avec humanisme et que pour chaque personne évacuée, une solution est trouvée. Dans les faits, c'est pas exactement le ressenti des concernés et des associations, Simon.
Oui, c'est ce qu'elle conteste souvent, notamment sur ces fameuses enquêtes sociales dont on parlait pour la zone libre. La question se pose de manière récurrente sur la façon dont celles-ci sont menées, notamment pour l'évacuation du squat La Jeunie, donc où là aussi il y avait plusieurs centaines de personnes. Alors, c'est c'était pas tout à fait les mêmes publics qu'à la zone libre, hein. C'était principalement des personnes originaires de Bulgarie, un squat qui est donc dans une friche industrielle du quartier Brazza, donc qui est en cours de construction en ce moment à Bordeaux. Pour savoir exactement combien de personnes y vivent, quels sont leurs projets d'intégration réelle sur le territoire français, si les personnes travaillent, si leurs enfants sont scolarisés, etc., ces fameuses enquêtes sociales sont menées. Avant l'évacuation du squat La Jaunie, ce que nous ont indiqué les associations, c'est qu'il y avait une enquête qui avait été menée, mais de façon très très rapide, à un moment de la journée en plus, où tous les occupants du squat n'étaient pas forcément présents, et donc voilà, ils estiment que selon la façon dont les enquêtes sont menées, ça biaise les résultats et donc les conclusions qui en sont tirées, puisque on peut derrière dire, comme pour la Jaunie, qu'il n'y a que seulement quelques dizaines de personnes qui pourraient prétendre à un logement ou qui pourraient bénéficier du soutien des organismes sociaux.
Pour quelles raisons mène-t-elle une politique que beaucoup d'associations considèrent très dure à l'encontre des migrants ? Est-ce qu'elle ne fait qu'appliquer les directives données par l'État en la matière ? Ou pour le dire autrement, est-ce que tous les préfets mènent la même politique ?
Tous les préfets ne mènent pas la même politique, mais je pense qu'ils obéissent à des directives nationales qui sont assez strictes, notamment en termes d'immigration et de reconduite à la frontière ou de contrôle des étrangers qui soient avec ou sans papier. Et je dis avec papier puisqu'on a des témoignages de la difficulté de personnes, notamment qui sont en procédure pour obtenir des papiers au titre notamment de des demandes d'asile, que c'est même pour elles c'est très très compliqué, que alors il y a évidemment un contexte difficile en ce moment qui est celui de la pandémie où beaucoup de bureaux ou d'accueil des personnes sont fermés, où il y a beaucoup de procédures qui sont à faire par téléphone ou par internet, etc., ce qui complexifie un peu la situation d'étrangers qui sont pas forcément familiers des méandres de l'administration française. Il y a cet aspect-là. Et le durcissement quand même singulier qu'on voit depuis quelques années à l'égard de la politique d'immigration, notamment avec par rapport à certains pays. On sait que la France signe des accords bilatéraux avec tel ou tel pays. On sait par exemple que pour les ressortissants albanais, il y a manifestement beaucoup de fermeté à appliquer, y compris à l'égard de personnes qui sont parfois en France, certes de façon irrégulière depuis des années, mais qui travaillent, dont les enfants sont scolarisés. On avait eu le cas de Drita, notamment une jeune bordelaise renvoyée en Albanie, alors que voilà, elle travaillait depuis 10 ans et elle était notamment engagée bénévolement même pour faire de la traduction, etc., auprès de la justice ou d'autres organismes nationaux.
L'Albanie étant classée par la France comme un pays sûr, alors qu'on sait évidemment que énormément de vendettas notamment se tiennent là-bas et que beaucoup de ressortissants albanais sont en danger dans leur pays. À vivre en astreinte, on est tout un tas près de chez moi à vouloir porter plainte. La populace demande pas l'opulence sans souffrance, juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, le FN monte. Qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. Donner les effets de serre, les auront à l'usure. En quelques semaines, 3 squats viennent d'être évacués et en pleine pandémie également. Pourquoi les expulsions s'accélèrent-elles en ce moment ?
Sans doute plusieurs réponses à cela. Il y en a une qui est que bientôt va arriver la trêve hivernale, qui n'interdit pas l'expulsion des squats, hein, puisqu'ils ne sont théoriquement pas concernés par la trêve hivernale, mais de fait c'est auprès de l'opinion publique et même légalement, puisqu'on peut dans certains cas justifier de la pertinence d'occupation d'un squat pendant la trêve hivernale, donc ça rend beaucoup plus compliqué d'expulser un squat à ce moment-là, et du coup souvent on voit des expulsions se démultiplier dans les semaines qui précèdent l'entrée dans la période hivernale, donc qui est le 1er novembre. La date du 1er novembre a été avancée au 18 octobre, mais en fait, elle ne concerne que l'entrée en vigueur du plan hivernal, qui est, lui, la mise à disposition pour l'hébergement d'urgence de nouvelles places d'accueil, donc qui est différent tout de même de la trêve. Donc il y a cet aspect-là, un peu de calendrier temporel. Et puis je pense, alors ça c'est peut-être une interprétation politique, mais en tout cas c'est les retours qu'on a auprès de nos interlocuteurs, qu'il y a quand même un durcissement lié à l'approche des échéances électorales. Voilà, le fait que Bordeaux ait basculé à gauche et soit désormais dirigé par des écologistes, le fait que la métropole soit désormais dirigée par le Parti Socialiste et les écologistes, est-ce que ça contribue aussi à vouloir un peu engager une forme de bras de fer de la part de l'État avec certaines collectivités locales? C'est en tout cas une hypothèse qui est avancée, que, dans laquelle je peux pas évidemment trancher sur un que c'est la vérité, mais il y a forcément des intérêts politiques de faire passer tel ou tel message du côté de l'État et tel ou tel message du côté des collectivités locales.
Merci beaucoup Simon Barthélémy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre article, Expulsion imminente pour la zone libre, les soutiens se mobilisent. Il est à retrouver sur le site de notre partenaire, rue 89, Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruault qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou AudioNow. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.